Le journal Claire Flechel. Bonjour Claire.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Au Japon, en marge du G20, la Chine et les États-Unis jouent l'apaisement. Donald Trump et Xi Jinping déclarent la trêve dans la guerre des taxes. On sera avec l'envoyé spécial de France Culture au début de ce journal.
Également dans l'actualité, la nouvelle décision de justice dans l'affaire Vincent Lambert. Elle ouvre la voie à un nouvel arrêt des traitements qui le maintiennent en vie. L'un des avocats des parents annonce vouloir porter plainte pour meurtre avec préméditation sur personne vulnérable. Vous l'entendrez.
Des drapeaux arc-en-ciel à Paris ce midi, 41e édition de la marche des fiertés, avec un mot d'ordre cette année, filiation PMA, marre des lois à minima. Un amendement sur les logements qualifiés de passoires thermiques adopté hier à l'Assemblée nationale. Ce dernier adoucit une première version qui traduisait une promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'interdire purement et simplement la mise en location de logements affichant de piètres performances énergétiques à l'horizon 2025. Et dans la deuxième partie, Caroline Brouet ?
Eh bien, un entretien exceptionnel pour la dernière de la saison avec Ginette Kolinka, 94 ans. Elle a été déportée à Birkenau quand elle en avait 19 et aujourd'hui, elle raconte inlassablement son histoire. Elle l'a raconté également dans un livre paru il y a quelques semaines. Elle nous a accordé un entretien sur la place de la mémoire, sur l'importance de la transmission auprès des jeunes et puis sur ses espoirs et sur ses craintes pour la société actuelle.
On prend donc tout de suite la direction du Japon avec le G20, le sommet des 20 plus puissantes économies du monde qui se termine aujourd'hui avec comme à chaque fois un communiqué final, communiqué qui ne fut pas simple à rédiger. La France, les Européens et le Canada menaçaient de ne pas signer ce texte en cas de recul sur la question climatique, mais finalement cela devrait être évité. En marge du sommet, il y a eu aussi cette rencontre cruciale tôt ce matin entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Dominique André, vous êtes l'envoyé spécial de France Culture à Osaka et c'est le soulagement, Dominique, puisque le président américain est sorti de cette réunion en qualifiant la rencontre d'excellente.
Oui, très bonne et effectivement même excellente, a dit Donald Trump en sortant de la salle. En fait, les deux dirigeants ne s'étaient pas revus depuis le mois de novembre, tant l'ambiance s'était dégradée à coup de nouvelles sanctions douanières des deux côtés. Les Américains annoncent maintenant la publication d'un communiqué qui ne va pas tarder. Ce sont les Chinois qui donnent le plus de détails ce matin. L'agence de presse Chine Nouvelle affirme que Washington ne va pas imposer de droits de douane supplémentaires sur les marchandises chinoises à leur entrée aux États-Unis. Donald Trump avait récemment menacé la Chine d'une nouvelle salve de 300 milliards de dollars de tarifs douaniers. L'agence de presse officielle chinoise ajoute aussi que Xi Jinping et Donald Trump se sont mis d'accord pour relancer les négociations commerciales. Les navettes entre Pékin et Washington, interrompues brutalement au mois de mai, vont donc reprendre. En fait, on se retrouve dans la même configuration qu'au dernier G20 fin 2018 en Argentine. Xi Jinping et Donald Trump avaient suspendu les hostilités pour reprendre des négociations commerciales approfondies, mais la trêve n'avait duré que quelques mois. Rien n'est donc réglé sur le fond, c'est juste une accalmie légère qui profitera sans doute au marché boursier, aux entreprises qui font du commerce entre les deux pays et puis aussi au président chinois qui a fait l'objet de critiques en interne sur sa gestion de la guerre commerciale avec les États-Unis. Il est beaucoup trop tôt encore pour savoir si cette guerre commerciale sino-américaine est définitivement terminée.
Dominique André, envoyé spécial de France Culture au Japon avec Nicolas Mathias pour les moyens techniques. Donald Trump qui par ailleurs propose au Nord-Coréen Kim Jong-un qu'il se rencontre demain dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. Le navire humanitaire Sea-Watch est entré cette nuit dans le port de Lampedusa avec ses 40 migrants à bord et ce malgré l'interdiction du gouvernement italien. Le bateau a forcé le blocus, sa capitaine a été immédiatement arrêtée selon l'ONG.
Nouvel épisode judiciaire dans l'affaire Vincent Lambert. La Cour de cassation a annulé hier l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui ordonnait la reprise des traitements pour ce patient dans un état végétatif depuis 10 ans, devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France.
Autrement dit, les soins qui le maintiennent en vie au CHU de Reims pourraient être très vite arrêtés, ce qui déchire sa famille dont une partie refuse l'arrêt du traitement, notamment ses parents dont les avocats annoncent de nouveaux recours. Maître Damien Triomphe menace de poursuite le médecin de Vincent Lambert pour meurtre avec préméditation en cas d'arrêt des traitements.
Le combat pour Vincent continue et nous ne laisserons pas Vincent assassiner. C'est évidemment un combat politique. Quand on voit, et là j'espère que les Français vont également ouvrir les yeux, quand on voit que tout un État déchaîne les moyens considérables de l'État, des moyens humains, des moyens financiers, des moyens politiques, pour s'acharner sur un homme en utilisant un véritable rouleau compresseur politique et judiciaire, eh bien je dis que la France ne mérite plus ce nom de patrie des droits de l'homme. Parce que la France, elle doit respecter le faible contre le fort, le vulnérable et le sans défense contre ceux qui ont tous les pouvoirs. Eh bien malheureusement, la France, aujourd'hui, s'est déshonorée. Et j'espère bien qu'elle reprendra conscience d'elle-même et de ce qu'elle doit être aux yeux des nations. Parce que malheureusement, la France risque d'être mise au banc des nations civilisées.
Maître Jérôme Triomphe, l'un des avocats des parents de Vincent Laubert, au micro d'Antoine Maret. A noter que le Premier ministre a réagi hier soir à la décision de la Cour de cassation. Il faut respecter ce que disent les médecins et ce que dit la loi sur une situation qui est sans issue sur le plan des soins, dit Édouard Philippe. 500 000 personnes attendues à la marche des fiertés LGBT aujourd'hui à Paris. Un défilé festif et politique. Le mot d'ordre cette année, filiation PMA, marre des lois à minima. Alors que le projet de loi de bioéthique sera présenté en juillet en Conseil des ministres. Projet de loi qui inclura l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. La PMA qui a de nouveau été au centre de tous les débats avec l'exclusion d'Agnès Thil du parti La République En Marche cette semaine pour ses propos jugés comme pernicieux par LREM. Décision regrettable, estime Sonia Crimi, députée de la 4e circonscription de la Manche, pourtant pour la PMA.
Je trouve que cette exclusion d'Agnès Thil, elle ne fait pas du bien à notre mouvement et elle ne fera pas du bien aux voix qui sont très différentes au sein de La République En Marche, dans notre mouvement et dans notre groupe. Pour moi, être progressiste, c'est comprendre aussi des gens comme Agnès Thil et ne pas les enfermer, ne pas les taxer d'homophobes, c'est très simple. Si on a envie de corneriser le débat, si on n'a plus envie d'avoir de débat, stigmatisant tout le monde. Et moi, je pense qu'Agnès Thil était beaucoup stigmatisée dans cette affaire-là. Le fait qu'elle soit une voix forte et claire et précise et qu'elle soit très différente à la majorité des voix en marche, ça l'a rendue médiatique. Et je pense que c'est ça qui embête plus. Et la liberté d'expression, bien évidemment, d'autres personnes vont se poser la question sur ce sujet comme sur d'autres. Je pense qu'on a perdu beaucoup de bienveillance. L'exclusion d'Agnès Thil, c'est une erreur qu'on payera, je pense, tous, qu'on payera tous.
Sonia Crimi, députée de la 4e circonscription de la Manche, la marche des fiertés cet après-midi à Paris, partira à 14h de Montparnasse pour rejoindre la place de la République en fin d'après-midi.
France Culture 8h08, suite du journal de Claire Flechel. La France se rapproche des 100% de dette publique. Hier, l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, a rendu ses chiffres du premier trimestre de 2019.
Plus de 2300 milliards d'euros, soit 99,6% du produit intérieur brut. Le gouvernement avait promis de ne pas passer la barre symbolique des 100%, mais ces 43,6 milliards d'euros qui viennent s'ajouter pour ce premier trimestre semblent contredire. Rien ne semble arrêter l'augmentation de la dette publique française. Pourtant, rien d'inquiétant, assure l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Mathieu Plane est directeur adjoint au service analyse et prévision de l'OFCE.
Il faut faire attention parce que d'abord, si on regarde l'évolution trimestrielle de la dette, il faut voir qu'en 2017, la dette publique française est déjà passée au-dessus des 100%. Et après, elle est repassée en dessous parce qu'une fois de plus, il y a des effets de calendrier fiscaux qui peuvent jouer sur ces évolutions-là. Le 100% est symbolique des dettes publiques. C'est pas ça qui va changer radicalement la situation économique de la France. Ça montre qu'il y a une accumulation de dettes qui est liée à un certain nombre de phénomènes, et notamment les phénomènes de crise économique, de crise financière, et que c'est vrai que c'est pas propre à la France. On le revoit dans beaucoup de pays développés, hein, cette augmentation forte de la dette publique. Et la question intéressante, c'est que malgré cette forte augmentation, les marchés, les investisseurs demandent, il y a une demande forte pour détenir des titres de dette, ce qui fait qu'aujourd'hui les taux sont très bas. Donc c'est le grand paradoxe, c'est que la dette publique est très élevée, mais son coût aujourd'hui est très faible. Et donc s'il y a une inquiétude en tout cas qui peut être signalée, c'est-à-dire qu'on a un niveau de dette qui est relativement élevé, c'est pas ce que considèrent aujourd'hui les marchés qui font entièrement confiance en tout cas à la France. Et on voit que ça profite très fortement à l'État français aujourd'hui.
Mathieu Plane de l'OFCE. Selon l'Observatoire, le plus important sera de se pencher sur le déficit du pays à la fin de l'année. Prochain calcul de la dette publique fin septembre. Le thermomètre n'a jamais été aussi haut en métropole. C'était dans le Gard hier, 45,9 degrés à Galargues. Le Gard qui va perdre environ 5 degrés aujourd'hui, qui n'est plus en vigilance rouge, tout comme les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et l'Hérault. Au total, 79 départements restent en vigilance orange. La région parisienne va connaître son pic de canicule aujourd'hui avec 38 degrés. La canicule qui apporte par ailleurs son lot d'incendies dans le sud de la France, plus d'une cinquantaine de feux en raison des températures étouffantes et des rafales de vent. Le trafic des trains, par ailleurs, a été perturbé à Montpellier hier soir à cause des flammes trop près des voies. Et alors que la canicule fait rage, l'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi sur l'énergie et le climat. Il décrète l'urgence écologique et climatique et fixe la neutralité carbone à l'horizon 2050. Un amendement est consacré à la lutte contre les logements qualifiés de passoires thermiques. 7 millions de personnes sont concernées par la précarité énergétique en France. Véronique Reberotte.
Des mesures progressives plutôt que des sanctions, le gouvernement et la majorité ont choisi de jouer le volontarisme dans le temps, a commenté le ministre de la Transition écologique François de Rugy. Une première phase incitative visera à simplifier les dispositifs d'accompagnement à la rénovation, suivie en 2023 d'une phase d'obligation de travaux jusqu'en 2027. C'est seulement en 2028 que les propriétaires de passoires thermiques seront sanctionnés s'ils n'ont pas réalisé les travaux d'isolation nécessaires du logement qu'ils entendent louer ou vendre. Un plan d'action donc en trois phases, progressive, qui ne ressemble pas aux promesses du candidat Macron. Dans son programme, Emmanuel Macron prévoyait que les logements énergivores, occupés par 7 millions de ménages, seraient tous interdits de location à compter de 2025, avec une promesse d'une prise en charge des travaux, au moins temporaire, pour les propriétaires les plus précaires. Pour l'ancien député En Marche, Mathieu Orphelin, qui demandait expressément au gouvernement de tenir ses promesses et de frapper vite et fort en matière de rénovation, certes ce compromis permet d'avancer, mais pas suffisamment. Les ONG se demandent de leur côté où est passée l'urgence climatique. Pas assez de mesures efficaces à court terme. Quand il faut passer aux actes concrets, réagit Greenpeace, le courage politique du gouvernement fond aussi vite que les températures montent.
Véronique Reberotte pour France Culture. Le réchauffement du climat qui a également des conséquences directes sur la population animale. Certaines espèces disparaissent, d'autres au contraire prolifèrent. C'est le cas des sangliers et des cochons sauvages dont la population est estimée à 1 million d'individus chez nos voisins allemands. Ils provoquent de plus en plus de ravages dans les récoltes et les jardins. Reportage à Berlin de David Philippot.
Vilma Ludwig, une octogénaire, montre le fond de son jardin.
Venez.
Un jardin clôturé avec les moyens du bord, des planches clouées, renforcées par des couvercles de poubelles.
C'est pas très beau, mais on ne sait plus quoi faire. Tout est vraiment capoute.
20 fois au moins, les sangliers ont dévasté son potager, souvent de nuit, désormais aussi en plein jour.
Une fois, la laine s'est montrée très agressive. Elle n'a pas laissé mon mari approcher ses petits à plus de 2 mètres. Elle lui a foncé dessus, il a dû reculer. Elle a fini par s'allonger pour allaiter son marcassin et elle nous regardait du style « Je vis ici et c'est toi l'étranger ».
Dans la ville voisine de Standorf, les sangliers ont ravagé les récoltes. 50 000 euros de dégâts. Le maire de cette ville, collé à Berlin, prévoit dans son budget des incitations financières pour l'abattage des sangliers et des contraventions pour les habitants qui les nourrissent. Mais Bernd Albers ne peut pas grand-chose contre le réchauffement climatique.
Les étés sont plus longs et plus chauds. Les sangliers peuvent se reproduire plusieurs fois dans l'année. Il y en a beaucoup plus qui survivent à l'hiver. Il faut donc en tuer davantage.
L'an dernier, 90 000 sangliers ont été abattus dans la région. Les chasseurs ont le droit ici de chasser toute l'année. La culture intensive de maïs, gros consommateur d'eau et dont les sangliers raffolent, est également montré du doigt.
Reportage signé David Philippot. Le temps aujourd'hui, selon Météo France, sera toujours caniculaire sur la majeure partie du pays, même s'il fera un peu moins chaud sur le sud-est. Les maximales devraient atteindre 31 à 35 degrés autour de la Méditerranée, entre 35 et 40 dans l'arrière-pays. Il fera même 41 ou 42 à l'ombre dans le centre de la France. Sans surprise, il y aura du soleil presque partout. Quelques nuages à prévoir ce matin sur les côtes à l'ouest.